il y a un grand danger dans l'écriture du récit de l'action. Il entre, il ouvre la porte, par la fenêtre, il voit la splendide auréole du soleil couchant disparaître lentement derrière les montagnes mauves. Je vous donne un exemple. Ce genre de choses est extrêmement, cet effet littéraire est extrêmement dangereux. D'abord parce que peut-être au jour du tournage, on n'aura pas des montagnes mauves et il n'y aura pas un beau coucher de soleil. Donc il faut que l'écriture soit claire, complète, mais il faut, je dirais, se méfier de tout effet littéraire que la caméra ne pourra pas rendre.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. La palme d'or.
Una, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Una, all, two, vous. Go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Être scénariste, c'est préparer le lit où les autres vont ensuite faire l'amour. Dixit Billy Wilder, qui en connaissait un rayon sur la question. Scénariste, un travail de l'ombre pour un film en pleine lumière. Et pourtant, les maîtres du jeu, ce sont bien eux, les raconteurs d'histoire, au sens le plus noble. Nous en avons choisi trois ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Elle définit le scénario comme la carte précise d'un voyage à faire qui sera le film, mais qui n'est pas un voyage. Bonjour Agnès de Sacy.
Bonjour.
Scénariste donc pour et avec Valeria Bruni Tedeschi, Zabou Breitman, Roche Dizem entre autres, et Pascal Bonitzer, avec lequel vous avez co-signé cette histoire, Les Envoûtés, son nouveau film sorti prévu mercredi prochain. À vos côtés, un scénariste réalisateur, c'est Selon. Bonjour Gilles Marchand.
Bonjour.
Oui, c'est Selon, parfois Dominique Moll co-écrit vos films, et en ce cas précis, vous co-écrivez le sien, Seules les bêtes, sorti mercredi. Un troisième invité et un troisième cas de figure. Un réalisateur adapte une histoire vraie avec celui qu'il a vécu, Guillaume de Fontenay, réal et scénariste canadien-français. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris. Dans le film Sympathie pour le diable, il raconte à Sarajevo la vie d'un reporter de guerre, Paul Marchand. Tous les trois, vous nous raconterez cette activité assez fascinante qui consiste à écrire un film. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi à côté de Seules les bêtes, Ce qui nous reste, Made in Bangladesh, Brooklyn à faire ou Le meilleur reste à venir. Enfin, on espère pour eux. C'est parti.
J'ai plutôt l'impression qu'une histoire qu'on commence, qu'on ébauche, porte une sorte de secret. Et que ce secret, il faut le trouver. Il faut trouver le fil rouge qui va nous amener du début à la fin de l'histoire à travers les personnages, parce que pour moi c'est très très important, les personnages. Traquer des personnages, les accompagner, être surpris par eux sans les parachuter dans des situations qui sont arbitraires. Je dirais que c'est cette vérité des personnes, au plus près des personnages, tout en racontant une histoire, tout en trouvant un engrenage de récit, parce que j'aime jouer avec le récit. Et la communication vis-à-vis du spectateur passe par cette histoire, par ce récit, et donc il y a des principes de récit, ça oui. Mais j'ai l'impression que chaque histoire, chaque sujet de cinéma doit inventer son propre mode de récit.
Agnès de Sacy, Gilles Marchand, c'est vrai qu'il y a autant de scénaristes que de méthodes de scénario. Celle-là est signée Jacques Fieschi. Vous êtes d'accord qu'une histoire porte un secret, tous les deux?
Oui. Un moteur secret, quelque chose qui effectivement est à découvrir, mais peut-être même au moment de la réalisation du film. C'est-à-dire que c'est comme si ce secret, il fallait qu'il reste secret le plus longtemps possible. C'est-à-dire trop de conscience, des fois, tue le moteur.
Le secret est dans le sujet?
Le secret, si on savait exactement où il est, ça serait déjà plus facile.
Ouais. Mais... Le secret, c'est comme un combustible. C'est-à-dire, c'est effectivement ce qui nous aide à chercher tous les jours. Ouais. Moi, je trouve que, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Fieschi, notamment sur les personnages.
Oui.
Ce sont, selon moi, eux qui portent le secret. C'est-à-dire, ils ont chacun leur secret. Et tout cela forme effectivement, ensuite c'est comme un secret de l'existence, c'est-à-dire on continue à cavaler derrière pour essayer de comprendre quelque chose, et puis on est assez démunis. Mais c'est ce mouvement-là, c'est cette énergie-là qui est très belle. Et juste une chose, c'est je pense que nous sommes, enfin moi je me sens comme un chercheur dans un laboratoire souvent, c'est-à-dire j'ai l'impression... on est souvent en équipe, au moins deux avec le réalisateur, et on émet des hypothèses. comme si on cherchait, pour le coup, voilà, un secret, un vaccin, quelque chose d'extrêmement... Et on émet des hypothèses et on avance le plus loin possible dans cette hypothèse. Et si le personnage faisait ça? Et s'il pensait ça? Et si l'histoire nous aime? Et puis on avance, on avance, on avance pour voir. Et puis parfois, on arrive à une impasse et on revient en arrière. Et ce sont des lentes élaborations comme ça, dans cette intimité très forte qui est celle de la coécriture.
Est-ce que... Parfois, les impasses peuvent être belles, non?
Ouais. Bien sûr, ouais. elles sont... Bien sûr, elles sont inspirantes.
Est-ce que votre méthode change en fonction du cinéaste avec lequel vous travaillez, Gilles Marchand?
Oui, enfin, on peut même dire qu'il n'y a pas complètement de méthode. C'est effectivement la rencontre qui crée ce secret sur, oui, ce film-là, ce moteur, ce combustible. J'aime beaucoup l'idée du mot combustible, c'est-à-dire c'est quelque chose
qui fait avancer,
qui avance. Et le dialogue, pour moi, est effectivement quelque chose de déterminant quand on est face à une réalisatrice, un réalisateur. Je prends souvent, moi, la métaphore un peu idiote du ping-pong, mais c'est vrai qu'on se renvoie la balle. Il y a ce essai dont parlait Agnès, c'est-à-dire qu'on joue, on improvise aussi, d'où la question de l'incarnation. On est un peu des comédiens, mais pas devant la caméra. On est un peu les personnages. On se dit, bah, s'il dit ça, oui, il y a quelque chose de très charnel aussi dans l'écriture.
Vous êtes d'accord tous les deux que si le scénario est réussi, il s'évanouit à l'intérieur du film?
Évanoui. Est-ce que c'est le terme?
Non, mais est-ce que on le
comment
sent
dire?
Non, pas s'évanouir. Mais on le, on le sent pas. On le voit pas.
On devrait pas.
Absolument. Mais là, dans ce sens-là, oui.
Tout est possible. Je pense qu'il y a des. Enfin, quand on aime le cinéma, je pense qu'il y a des films qu'on aime et qui sont très. Justement, où le scénario fait partie du spectacle. Enfin, et après,
oui, quand on voit le limier ou smoking, no smoking,
voilà,
ça fait
y a
partie
des choses du spectacle. Oui. Après, c'est vrai que dans la tradition française, en particulier, il y a un désir de chercher la vie et de ce que, d'une certaine manière, le côté écrit disparaisse le plus possible. Moi, je sais que dans le travail du scénario, je suis toujours très conscient que les dialogues sont sans doute ce qui reste le plus du scénario. Le reste va changer beaucoup de forme, les dialogues aussi parfois, mais...
Et va de soi dans le film aussi.
Absolument.
Je le disais en même temps, je pense que les dialogues qui effectivement restent la trace la plus visible, ne viennent pas de nulle part. D'ailleurs, on voit parfois les limites de l'improvisation. Enfin, ça peut être extraordinaire, mais ça peut aussi être parfois catastrophique. Les monteurs vous en parleraient mieux que moi. Et c'est-à-dire que les dialogues surgissent de la vérité d'une situation et d'une structure et d'une situation précise où en sont les personnages et qui a été extrêmement travaillé en amont. Et malgré tout, c'est tout ce travail, c'est comme un échafaudage extrêmement serré. Qui effectivement ensuite s'efface, mais soutient. C'est pour ça que je soutiens, il me semble, cette nouvelle écriture, bon voilà, classiquement, qu'on dit, qui est ensuite celle de la réalisation, et cette dernière écriture qui est celle du montage.
Il y a un cas de figure particulier, je le disais, c'est le scénariste qui raconte une histoire vraie et qui l'écrit avec celui qu'il a vécu, Guillaume de Fontenay, Sympathie pour le diable, sur les écrans, Allez-y, raconte Paul Marchand, multi-reporteur pendant le siège de Sarajevo, une tête brûlée, généreuse et antipathique à la fois, un film brut, sans romantisme, avec beaucoup de vérité, sur une personnalité. Avant d'écouter Guillaume de Fontenay, vous avez vu tous les deux ce film?
Oui.
Et alors, donc, c'est vrai que ça donne une image qui a l'air assez juste, de ce métier.
Oui, la mise en scène y est pour beaucoup, d'ailleurs, et l'interprétation de Neil Schneider, qui est assez formidable.
Assez remarquable,
et encore une fois, le scénario, c'est le premier geste de la mise en scène aussi, c'est-à-dire que ça lance quelque chose qui... Et on voit bien, là, dans Sympathie pour le diable, que le geste, il est d'une espèce d'hyper-réalisme aussi.
On écoute Guillaume de Fontenay précédé d'un extrait de film, justement.
Aujourd'hui, en plein cœur de Sarajevo, une scène d'horreur comme on en a l'habitude. Un sniper perché sur les collines a encore choisi d'enlever la vie à un enfant. Le projectile de calibre 308, provenant sans doute d'une carabine Dragunov, n'a laissé bien sûr aucune chance au petit Hadi, 3 ans et demi. Son crâne a volé en éclats. L'enfant n'a pas souffert. Sa mère, en revanche, a hurlé tout au long du trajet inutile vers l'hôpital. Pendant ce temps, la communauté internationale se questionne et piétine, incapable d'accoucher de la moindre résolution pour empêcher le massacre de dizaines de victimes innocentes chaque semaine, comme ce fils qui ne verra pas la fin de la guerre.
Bon, ça va, vous avez tout?
Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien.
Vous le prenez comme ça ou vous le prenez pas, et si ça passe pas, vous allez vous trouver un autre correspondant. Non, c'est non négociable. Ça fait bientôt un an qu'on raconte la merde de Laurent avec des mots raisonnables. Et ça donne quoi? Non, toi, tu m'écoutes. Alors, je sais, c'est peut-être pas très clean. Toi, tu voulais peut-être une version plus soft, mais je te rassure. Tous les mots que j'ai utilisés, toutes les descriptions sont bien non de ça, de la réalité. Parce que pour raconter cette saloperie, ben, y a pas d'autres mots.
Bonjour, Guillaume de Fontenay.
Bonjour.
Vous dites, c'était une personnalité extrême, donc personnage de film. Il faut faire attention avec les personnalités extrêmes, parce que c'est très grossissant, le cinéma, comme miroir. Donc, ouais. Il faut faire l'équilibre des choses.
J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de me tenir à distance et de faire un film à hauteur d'homme. Chez Paul, il y a une fêlure. Ce qu'on sent beaucoup moins à l'époque à Sarajevo, parce qu'il est encore plein d'arrogance. Mais moi qui l'ai connu avec... on a écrit ce scénario ensemble de 2006 à 2009. Donc, je sens sa fêlure, je vois sa fêlure. C'est là-dessus aussi qu'on a travaillé, parce qu'on a 1h40 pour exprimer quelque chose, pour passer de ce personnage un peu antagonisant, un peu parfois insupportable, carrément, et pour le rendre finalement touchant et attachant au travers de son histoire.
Comment on fait à la table, quand on est, vous, scénariste, réalisateur, et qu'on a à côté de soi le garçon qui a vécu tout ça, comment il se regarde, comment il parle de lui, comment il vous voit, vous, parler de lui, comment ça se passe, l'écriture?
En 97, il sort son bouquin. Je veux faire un spectacle avec une phrase comme ça. J'ai pas le courage d'aller voir cet homme qui est la voix de Radio-Canada pour moi et qui a en plus une grande gueule et qui est assez dur. Donc je me dis, je vais pas aller m'en prendre une. Manquer de courage. Et donc, c'est qu'en 2005 où je propose le film. Et à ce moment-là, en 2006, je vais à sa rencontre et on passe, on va chercher sa fille à l'école. On revient à la maison, on mange tous ensemble, c'est calme. Et ensuite, on part la discussion et on discute toute la nuit. Et on recommence le lendemain matin et le début de notre collaboration comme ça. Il s'avère que nous, on écrit, moi j'ai extrait toutes les scènes, parce que dans le livre, il parle de Beyrouth, de son expérience de 8 ans à Beyrouth là, aussi. Donc moi, je me suis concentré que sur la Bosnie, qui me semblait être, pour nous, quelque chose, une résonance très forte. Et à partir de ce moment-là, on crée une espèce d'arc dramatique. Et on se rend compte avec Guillaume Vignot qu'on n'est ni journaliste, ni journaliste de guerre encore moins, et qu'on n'a pas l'expérience de terrain, et comment on se parle avec l'ONU, comment on se parle entre collègues, comment on parle avec la population, comment on échange, comment on passe les checkpoints, tout ça, toute cette vie-là, on n'en est pas porteur. Et donc, je demande à ma productrice de faire venir Paul pour qu'on puisse l'écrire avec lui, et donc, sous sa dictée, on repasse chaque scène qu'on a mis dans scène à scène avec un arc dramatique.
Là, il vous dit, là, ça va pas, là, c'est juste.
Exactement.
Là,
voilà. Et là, il part. Et puisque Paul est une grande gueule, ben, c'est des monologues sans fin. Et on dit, mais, alors, c'est bien, mais tu vois, la scène, si c'est que toi qui parles, on n'y arrivera pas. Donc, on refait cet exercice-là, donc, en 3 semaines, littéralement. On a écrit, on est passé d'un scène à scène de, disons, 70 pages à un scénario près de 149 pages.
Alors, l'intelligence, la grande intelligence du film notamment, c'est de proposer des scènes très courtes, en fait, comme des flashs. C'était l'idée, ça, de faire un kaléidoscope de ce qui s'était passé là-bas.
Oui, mais c'est ce qu'on m'a reproché, hein.
Ah bon?
Qui vous a reproché ça?
Bah, tout le monde. C'est-à-dire que c'est 10 ans pour monter et réussir à obtenir un budget pour faire ce film. Mais ça a été très difficile parce qu'on nous reprochait que ce soit une chronique. Sans romantisme. Donc, sans romantisme, alors elle est où la belle histoire d'amour? Elle est où cette histoire sur Sarajevo? Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'éviter ces écueils.
Filmer caméra à l'épaule avec un grain d'image qui rejoint l'image du reportage de guerre.
Oui.
Ça aussi, c'était peut-être pas facile à vendre.
C'était pas facile à vendre, mais en même temps, pour moi, c'est toute la force, à mon avis, du film. Et on a un retour public et critique très fort sur le fait que, justement, le film est une expérience, alors ça, au niveau de la caméra...
D'immersion.
Oui. J'ai voulu rendre cette narration plus immersive.
On est embarqué.
Et je pense que si j'étais passé par une histoire, au sens classique du terme, ou par un langage cinématographique classique, de genre chant contre chant, establishing et compagnie, en 16-9 ou en cinémascope, j'aurais tué l'urgence, j'aurais tué la véracité de ce propos et l'honnêteté de ce regard. Et quelque part, les documentaires et les photos des photographes de guerre m'ont beaucoup influencé dans ce récit. qui me semblait plus fort en étant juste comme eux, un espèce de Polaroid d'un moment présent, paf.
Paul Marchand, il aurait refusé cette forme de romantisme du récit, par exemple. Il n'aurait pas accepté de travailler avec vous si vous aviez proposé autre chose.
Tout à fait.
On peut l'imaginer aisément.
Ce qui séduisait, c'était d'avoir un film qui soit franc, qui soit carré, et qui soit le plus juste, le plus rigoureux.
Au plus près de sa réalité.
Et au plus proche de sa réalité. Et vraiment, tous les journalistes de guerre qui l'ont vu jusqu'à présent, Rémy Ourdan, qui a fait ce magnifique documentaire avec Patrick Chauvel, qui s'appelle Le Siège, qui est à voir si on s'intéresse au sujet, ont tous été très émus par le film. Et par le portrait sans complaisance sur Paul, ni sur cette guerre, ni sur l'ONU, ni sur la population, il y a vraiment quelque chose de plus... à la fois plus radical et plus humain.
Voilà, Sympathie pour le diable, une histoire vraie racontée par le protagoniste de l'histoire, vous Agnès de Sacy. Pour les envoûter avec Bonizia, votre troisième collaboration avec lui, vous écrivez un conte d'amour, de folie et de mort, c'est lui qui le dit. On va raconter l'histoire en deux mots. Colline, pigiste, est envoyée dans les Pyrénées interviewer Simon, un artiste peintre un peu sauvage, qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l'instant de la mort de celle-ci. Une aventure qui est arrivée à son amie voisine Hazard, qui jurait d'avoir vu le fantôme de son père. Simon, au cours de cette rencontre, tente de séduire Colline, qui lui résiste. Donc c'est l'adaptation, une double adaptation d'Henry James, qu'il avait lu il y a longtemps, et de Gombrowicz. Comment on fait? C'est ce qu'il a dit.
Ah, bah alors, non.
Il ne vous l'a pas dit à vous.
Oui, alors... c'est James.
Non. Peut-être l'a-t-il dit, mais je ne sais pas.
Qui a écrit Les Envoûtés, d'ailleurs.
C'est-à-dire...
C'est un grand lecteur.
Non, c'est vraiment... C'est ça, il me l'a caché. Non, c'est une adaptation d'une nouvelle de Henry James qui s'appelle Les Amis des Amis, enfin qui a un autre titre aussi, qui est L'Origine des Choses, The Way It Came. Et Les Envoûtés, c'est uniquement le titre qui a été pris à emprunté à Gombrowicz. Il se trouve que Pascal avait voulu adapter Les Envoûtés de Gombrowicz sans y arriver, en tout cas sans mener le projet à terme il y a longtemps.
Tout ça pour dire que le grand défi de ça, de cette histoire, c'est de mêler donc ces apparitions fantomatiques sans les montrer dans une histoire réaliste. Ça, c'était une question dès le départ entre vous deux. Est-ce qu'on les fait apparaître ou pas?
Oui, forcément, ça a été une question. C'est une question qu'on a abordée. Je pense qu'on était très vite d'accord sur l'idée que ce qui nous intéressait, c'était la suggestion, beaucoup plus que. Donc, sachant qu'un des cinéastes de référence pour Pascal est Tourneur. Donc voilà, évidemment qu'on voulait beaucoup plus travailler le hors-champ, la suggestion que ce qu'on pouvait montrer. La question des fantômes. Alors après, à titre personnel. Il se trouve aussi que moi, je suis entrée dans cette histoire, surtout par le vertige psychique, finalement, que ça représente. C'est-à-dire, surtout, l'intériorité du personnage de Colline. Le portrait de cette jeune femme qui crée elle-même, d'une certaine façon, les conditions de son propre tourment. C'est-à-dire qui se sent face à deux êtres, un homme dont elle tombe amoureuse et une amie qu'elle aime infiniment, dans une sorte de triangle. Elle se sent dans une illégitimité parce que eux deux ont vu apparaître qui la mère, qui le père au moment du décès, et elle est une personne finalement ravalée à l'existence normale, si je puis dire. Et elle se sent du coup dans un sentiment d'illégitimité et d'infériorité, et bien que tombant amoureuse, elle ne se sent pas digne de cet amour.
Elle est presque jalouse de cette anormalité qu'il possède chacun.
Absolument.
Alors, on va écouter un extrait, celui que vous avez choisi. Oui. Donc, elle est extraordinaire, Sarah Giraudeau.
Elle est merveilleuse.
Un extrait avec Nicolas Duvauchel. Donc, elle lui rend visite et au bout de quelques temps, très peu de temps, voilà ce qu'il lui dit.
Je pense que vous lui auriez plu.
Moi ? À qui ? À votre mère ?
Elle était désolée de ce qu'elle appelait ma sauvagerie. De pas me voir avec quelqu'un. Elle aurait été contente de vous connaître.
Merci, je suis très touchée.
Vous voulez pas vous marier avec moi? Vous pourriez vivre ici. On peut travailler, on est connecté, il y a tout.
Bon. Non, si on reprenait l'entretien...
Si j'étais sérieux, je vous plais pas.
Enfin, on se connaît pas.
Autrefois, on n'avait pas besoin de se connaître pour se marier.
Ah, c'est ça, autrefois.
Alors?
Et alors? Juste parce que vous avez regardé mon cul pendant que je dormais, vous voulez faire votre vie avec moi? C'est n'importe quoi, enfin.
Je fais peur.
Pourquoi? Parce que vous avez des visions. Vous êtes pas le seul. Je connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée. C'est même pour ça que je suis là. Mon amie avec le tatouage. Elle est peintre aussi. Enfin, illustratrice, mais... C'est une vraie artiste comme vous. Et elle est bien plus belle que moi. C'est elle que vous devez épouser.
C'est étonnant, cette voix d'enfant dans ce corps d'adulte de Sarah Giraudeau. Je vais vous poser une question idiote, Agnès de Sacy.
Allez-y.
Est-ce que c'est important d'être une femme pour écrire un rôle de femme?
Ah, je vais faire une réponse idiote aussi.
Ben non.
Dialogue au sommet.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je n'en ai en aucun. Ben, d'ailleurs, Gilles pourrait en témoigner. Je pense qu'il a pu écrire de très beaux rôles de femmes. Et non, je n'ai en aucun cas, enfin, ou en tout cas, les scénaristes femmes n'ont en aucun cas l'entière propriété des personnages féminins. Néanmoins, je pense évidemment qu'il y a une sorte de continent d'intimité. Je ne sais pas, je cherche les mots, surtout en ce moment, c'est compliqué. Mais qui forcément, qu'il ne faut pas maîtriser d'ailleurs. Je pense que c'est ce qu'il y a de très beau dans l'écriture, c'est-à-dire ouais. qu'il y a forcément quelque chose qui nous est propre, qui est fait de notre histoire. Et évidemment, la féminité dans tous ces mystères, voilà, fait partie de mon histoire. Et donc j'écris avec qui je suis, voilà, évidemment.
Mais entrons dans la petite fabrique là, à partir de cet extrait. Concrètement, vous vous souvenez qui a dit quoi quand vous avez travaillé avec Pascal Bonnizère sur cette scène, c'est vous qui jouez Sarah Giraudeau et c'est lui qui jouait Duvauchel.
Alors non, justement, non, voilà. Je me souviens. Alors effectivement, oui, je me souviens. C'est intéressant. Je me souviens précisément du moment de l'écriture de cette scène. Et alors c'est particulier avec Pascal. On écrit. Il écrit souvent les toutes premières choses à partir desquelles on démarre. Et ensuite, on écrit d'une certaine façon à quatre mains, chez lui, chacun avec son ordinateur. Et effectivement, on dit, une fois qu'il y a une structure en place, on cherche. Et ensuite, on dialogue un peu à haute voix, chacun tapant comme ça et inventant. Et en aucun cas, il y a une répartition des rôles masculin-féminin. Pascal prend largement... Je pense que Pascal est très proche du personnage joué par Sarah Giraudeau. Il va rigoler quand il va m'entendre. Mais non, je pense qu'il l'est autant que moi, honnêtement. C'est-à-dire que, au-delà de la question du féminin et du masculin, il y a quelque chose dans ce personnage qui est ce que nous avons appelé, nous, dans notre fabrique de travail. En fait, c'est venu d'ailleurs d'un livre que Pascal m'a donné à lire à un moment, qui s'appelle « Les existences moindres » de David Lapoujade. Et il y a quelque chose autour de cette idée du sentiment du moindre, c'est-à-dire de ce que je disais tout à l'heure, le personnage qui tout d'un coup crée les conditions de son propre tourment, se sent dans une sorte d'illégitimité, de honte.
Pas à la hauteur des deux autres.
Ah voilà, exactement, pas à la hauteur des deux. Elle le dit dans la scène, elle dit elle est beaucoup plus belle que moi, c'est une vraie artiste, c'est elle que vous devez épouser.
En fait, ça c'est des faux arguments, c'est parce qu'elle
évidemment,
les rejoint pas dans leur aventure
extraordinaire. Évidemment, ce que moi je trouve très émouvant, c'est que dans le même mouvement où elle dit ça, donc elle lui dit c'est elle que vous devez rencontrer, en fait elle tombe amoureuse de cet homme. Donc c'est ce double mouvement qui est dans le même instant, qui crée évidemment le conflit et qui est absolument passionnant et qui est malheureusement ce que nous vivons souvent, de nous empêcher d'être heureux.
Gilles Marchand, vous qui aimez explorer des territoires un peu troubles, fantastiques, etc., je suppose que ce film a dû vous toucher.
Alors, les fantômes, Jacques Tourneur, évidemment que ça me parle. Voilà. Après, c'est toujours une. Enfin, je connais Pascal Bonnizère depuis longtemps. C'est vrai que c'est un film qui est très singulier dans sa filmographie. J'ai l'impression, enfin, qui en général est à quelque chose de très urbain et très drôle. Enfin, moi, ça me fait souvent rire sur un film très romantique.
Mais à la fois, il y a des répliques très drôles de la part de Sarah Giraudeau aussi, je trouve.
Oui, je pense que oui.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a souvent des choses qui sont sur presque un goût de l'esprit.
Il y a moins de comédie dans celui-là.
Oui, bien sûr.
Mais oui, le film est un beau film. Enfin, c'est vraiment... c'est une drôle d'aventure de spectateur.
Il dit quelque chose de beau, mais les fantômes ont quelque chose à nous dire, en fait.
Oui, moi je pense que la vraie question, pour moi en écrivant, n'était pas tant la question de l'existence des fantômes, que de leur nécessité. Je pense, mais là je parle à titre très, très personnel, je pense que nous avons besoin des fantômes. Je pense que voilà que leur apparition, ou en tout cas l'idée qu'ils puissent exister, nous font du bien. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Je parle au-delà du cinéma. Là, je parle de nos vies. Et par ailleurs, en gros, si je devais définir, je pense que Pascal et moi, on se disait bon, on n'y croit pas, mais quand même, et que on est parti de ce mais quand même, c'est-à-dire.
Moi, j'aime bien la réplique qu'a inventé Rebecca Lazotowski dans le Planétarium, avec des gens qui sont là et qui disent nous sommes les fantômes de demain. C'est beau, non?
Très beau. Il y a aussi c'est un intertitre dans Nosferatu qui dit voilà, passez le pont, les fantômes vinrent à nos
Les Envoûtés sortent mercredi prochain. Gilles Marchand, vous êtes venu donc pour Seules les Bêtes. Vous avez rencontré Dominique Moll à l'IDEC, et désormais La Fémis. Il a coécrit avec vous deux de vos films, L'autre monde et Dans la forêt. Et vous avez écrit quatre de ces films, Harry, un ami qui vous veut du bien, Les Ming et Des nouvelles de la planète Mars, et celui-là. Une femme disparaît le lendemain d'une tempête de neige. Cinq personnes se savent liées par cette disparition. Chacun a son secret, mais aucune d'entre elles ne sait que tout a commencé sur un autre continent, l'Afrique. Un récit adapté d'un livre de Colin Neal.
Colin Neal, pardon.
C'est compliqué, non, d'adapter, de croiser ces histoires-là à l'écriture, non?
Pas vraiment. En fait, les grands écarts, c'est des fois des choses justement qui sont très dynamiques, enfin qui donnent du désir fort. Et donc là, on est effectivement à la fois dans le Causse, enfin sur le Causse, dans la tempête de neige, et puis à Abidjan. Mmh. Alors ces deux mondes que tout semble opposé et qui sont réunis pour dans l'histoire par des événements et des personnages qui sont imbriqués les uns dans les autres.
Vous avez choisi une scène, mais on va vous en proposer aussi une autre. D'accord. Non, parce qu'elle est très symptomatique, cette scène. C'est une petite scène avec Laure Calamy, qui joue l'assistante sociale, qui rend visite à une vieille dame. Il y a un dialogue comme ça, peut-être, qui préannonce le propos du film.
Bon, on va y arriver, hein. Je vais pas les lâcher.
Vous êtes mignonne. C'est bien d'être optimiste.
Oui. Nécessaire même, hein.
Vous l'aimez, votre mari?
Oui, bien sûr.
Alors vous ne risquez rien. La femme qui a disparu, elle n'aimait pas son mari. Et son mari non plus ne l'aimait pas. Mais quand on s'aime, il ne peut rien vous arriver. Rien.
C'est important comme dialogue, ça, Gilles Marchand, parce que ça raconte un peu l'esprit du film. Seules les Bêtes, moi, j'ai l'impression que c'est un film sur les personnes où personne n'est amoureux de la bonne personne.
Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est un film où les personnages ont beaucoup d'amour à donner et en cherchent beaucoup, j'imagine, comme chacun d'entre nous.
Est-ce que c'est un point de départ entre vous deux?
Alors, il faut dire
que c'est ça qui vous intéresse.
Il y a le livre.
Mais on ne choisit pas un bouquin par hasard.
Un bouquin par hasard, on le choisit surtout par hasard. Le fait que le livre comme ça concentre effectivement, on parle d'amour, mais avec Dominique, on n'est pas des gens à se parler d'amour comme ça, même si on se connaît très, très longtemps, et on a une pudeur. Qui fait que c'est presque l'inconscient qui
c'est deux inconscients qui se parlent alors.
Qui se parlent. Mais oui, on essaie d'entretenir ça.
Ouais.
Et mais c'est vrai qu'on sent bien que ces personnages ont tous en commun comme ça du désir et de l'amour et une forme d'erreur. Donc il y a une vision qui est à la fois un mélange de pessimisme et d'optimisme qui est le pessimisme, c'est que l'amour serait peut-être un leurre, et l'optimisme, c'est que c'est un moteur formidable d'invention pour tous les personnages qui chacun vont comme ça chercher des choses dans des endroits parfois farfelus, parce qu'il y a aussi une forme d'ironie, de comédie dans cette recherche d'amour.
Vous avez choisi une scène, donc on va l'écouter. Parce qu'il y a une histoire dans cette histoire, c'est une histoire d'amour entre une Evelyne, Valeria Bruni Tedeschi, et cette jeune serveuse qu'elle rencontre, très belle scène de rencontre, cette actrice assez incroyable qui s'appelle Nadia Tereskiewicz, et on écoute, elle la suit, elle est amoureuse d'elle, et voilà ce qu'elle lui dit quand elle la retrouve dans sa maison à la montagne.
Pourquoi t'as un chien si t'aimes autant la solitude ?
Ah non, mais c'est moi qui lui tiens compagnie. Moi, je voulais absolument pas d'animal domestique. C'est lui qui insistait. Hein ? Hein ? Il m'a suivi sur une plage, il m'a quitté.
Adopte-moi.
Je voudrais que ça reste léger entre nous.
Tu me trouves lourde ?
Je te trouve irrésistible. Mais un peu trop.
Trop ?
Je sais pas. Trop.
Je sais pas ce que ça veut dire, moi, trop. C'est ton mari ?
Ouais.
Tu veux qu'il meure ?
Arrête.
Je vais lui jeter un sort. Il va tomber gravement malade.
Arrête !
Gilles Marchand, pourquoi vous avoir choisi cette scène-là en particulier ?
Alors, cette scène, parce que j'ai le sentiment justement qu'elle passe à la fois de choses de comédie à des choses plus menaçantes, qu'elle reflète quelque chose qui traverse tout le film, le côté à la fois, oui, passionné et mystérieux aussi, voilà. Et donc là, en l'occurrence, ces deux actrices, moi, que je trouve formidables,
oui.
Valeria Bruni Tedeschi qu'on connaît, mais qui là est dans un rôle plus sombre, d'une certaine manière,
moins folle que parfois.
et cette jeune actrice Nadia Tereskiewicz, qui est ahurissante de présence, de enfin, je sais que Denis Ménochet qui joue aussi dans le film disait c'est Uma Thurman.
Mais vous le savez pas à l'écriture qu'elle sera aussi bonne.
Ah non, c'est la magie et le plaisir d'être à l'origine des choses.
Ouais.
C'est que quand les choses se fabriquent, se transforment, quand on voit justement cette question d'incarnation dont on parlait au début de l'émission, où les comédiens formidables donnent cher à ce qu'on a imaginé, évidemment, le plaisir est énorme.
Agnès de Sassy, vous avez vu ce film Seules les bêtes, Dominique Moll. En plus, vous avez beaucoup travaillé avec Valéria Bruni.
Oui.
Quel est votre regard sur ce film, votre regard de scénariste, tiens, sur ce film? Parce que c'est un exercice assez compliqué, toutes ces histoires qui s'entremêlent entre l'Écosse et l'Afrique.
Oui. Alors, je ne connaissais pas le livre dont il est inspiré ou adapté. Et donc, effectivement, il y a toujours... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se demandait au début qu'est-ce qui reste de la trace du scénario. Là, effectivement, il y a une trace, malgré tout, forcément assez présente dans la construction même, qui est tout à fait passionnante parce qu'on retrouve, selon les volets, les portraits donnés par les noms... des éléments de l'histoire qu'on avait vu sous un autre angle auparavant. Donc il y a une sorte de plaisir du spectateur tout d'un coup d'avancer dans le récit et de composer. Après, donc je trouve ça remarquable, et en même temps, il y a des personnages, il y a une incarnation, il y a un récit de bout en bout avec une complexité et surtout une bascule. Je ne m'y attendais pas.
Ouais.
Donc il faut peut-être pas que je
trouve les mots.
Mais il y a des choses qui ont été dites malgré tout.
Qui a tué cette femme ?
Il y a le côté who done it. On est dans on pense une chose très très enfermée. On se dit ah bah oui tiens ça. Et puis tout d'un coup ça bascule vers autre chose, un autre monde et qui à mes yeux est une partie très très belle du film, mal connue et voilà à la fois.
Tout ça est dans le roman.
Honnêtement, tout est dans le roman. Après, il y a tout un travail classique de trahison et de restitution.
La scène que vous avez choisie, par exemple, elle est dans le roman, comme ça ?
Non. Non, mais comment dire, les scènes elles-mêmes, il y en a beaucoup qui ne sont pas les mêmes, mais l'esprit et cette construction particulière qui fait qu'on est obligé, comme spectateur, d'imaginer des choses et qui le côté ludique
et le point de vue de différents protagonistes.
Voilà, jubilatoire.
Il reste 30 secondes pour vous poser une question à tous les deux. C'est important à des scénaristes. Qu'est-ce que vous pensez chacun du film que vous avez écrit, Agnès de Sassy, quand vous voyez le résultat? Non, mais c'est important.
C'est très important.
Vous n'avez droit à aucun joker.
Moi, non, ça n'est pas le cas sur tous les films, donc c'est vraiment très sincère. Je pense que je pense que d'une part, Pascal a fait effectivement un film très personnel. Il y a une dimension il y a une tension dramatique assez étonnante, et les acteurs dirigés par Pascal, Sarah Giraudeau et Nicolas Duvauchel, ont amené les personnages à un point d'incarnation, ouais, à la fois de fragilité, de mystère, de drôlerie. Pardon, je sais, je suis trop long, mais ils sont vraiment très. C'est un des grands cadeaux pour le scénariste. C'est le moment de l'incarnation.
Gilles Marchand, que pensez-vous de Seules les Bêtes, le film ?
Que du bien. Enfin, moi, je suis très content du film et de la. La transformation par la mise en scène. Dominique est un grand metteur en scène qui justement. Incarne les choses, pas seulement effectivement par les comédiens, mais aussi par l'image, par la musique, par le son.
Seules les Bêtes est sorti mercredi, de Dominique Moll, Les Envoûtés de Pascal Bonizer, mercredi prochain. On se retrouve après Rex Orange County pour les sorties. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a ten. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions, 1 year on. Still can't focus. I did it again. Yeah, I did it again. 12 rounds in, fighting solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories in frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, to things. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. Been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain. Give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero. I'm coming in Bruce Wayne. Yeah, I did it again, I did it again. But this time I took control and turned my shit round. Sometimes you gotta cut a bitch out. I'm living again, yeah, I'm living again. Took all my strength to carry on, and though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from.
Passionnant.
Voilà, Agnès Jussassi. On va parler de films, encore. Laurent, on va commencer par Made in Bangladesh, de la réalisatrice bengalie. Elle s'appelle Rubaiyat Hossein. Chimou, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dhaka, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et des accords de son mari. Ensemble, elles iront jusqu'au bout. C'est très rare d'abord un film Made in Bangladesh et qui s'attaque à un tel sujet dans un pays où les patrons de l'industrie textile sont si proches du pouvoir politique, c'est même dangereux. Ce film est plein d'énergie et d'humour aussi. Dans un pays mené par les femmes, lesquelles sont pourtant les plus exploitées, Made in Bangladesh, l'étiquette sur certains de vos vêtements que vous regarderez désormais peut-être autrement.
Enfin, mené par les femmes, disons économiquement et socialement, voilà, oui, qui sont elles-mêmes menées, hélas, par une double férule qui est patriarcale pour la famille et patronale effectivement.
Avec des horribles affaires de viol.
Absolument, ouais. Non, tout ça n'est pas caché. C'est très très bien en ce moment aussi, pourquoi pas en France, de voir qu'il y a aussi des réalités sociales contrastées dans d'autres pays du monde. Voilà, ça nous vient comme ça en retour c'est très très bien. Non, franchement, c'est un beau film qui est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est complètement, comme on dit, documenté. Il y a pas de fausseté là-dedans. Et il y a une très jolie chose qui court tout au long du film, c'est la façon dont l'héroïne principal qui est totalement voilé au début du film, progressivement son dévoilement en fonction justement de la façon dont elle s'attaque au patronat et au patriarcat fera qu'à la fin elle n'aura plus de voile sur ses cheveux. Made in Bangladesh.
Oui, un été à Changsha du réalisateur chinois Zhu Feng. Dans l'été brûlant de Changsha au cœur de la Chine, l'inspecteur Bin, c'est lui, Zhu Feng qui interprète le rôle, enquête sur la disparition d'un jeune homme dont le bras a été retrouvé sur les bords de la rivière Xiang. Mais les indices sont peu nombreux et Bin pense à abandonner l'affaire jusqu'au jour où il rencontre une mystérieuse chirurgienne qui se dit être la sœur de la victime. Un polar psychologique singulier avec 50 nuances de gris. Et elle était présentée à Cannes, ce film à la section Un certain regard. Sans l'équipe, une censure chinoise. Mais pourquoi donc, Laurent ?
Oui, c'est d'autant plus bizarre que là, on peut pas le relier, ce film, à la grande tendance que nous aimons beaucoup mener tambour battant par Jia Fangke, notamment, c'est-à-dire cette tendance qui fait qu'on a un cinéma chinois qui regarde la Chine droit dans les yeux, et avec beaucoup d'acuité et de sévérité, souvent. Là, on est plus dans le registre d'un polar normal. C'est un premier film, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Hein, c'est ouais. Un premier film très maîtrisé, écrit et joué donc par Zhu Feng, vous le disiez. Un polar classique, je dirais, avec une ramification d'histoire, un polar de scénariste, un polar même avec des histoires de revenants et de deuil. Vous vous rendez compte comme quoi c'est transversal, et même en Chine on s'y intéresse aux revenants. Oui, surtout, voilà, mais bien sûr, et la culpabilité et le mal, ça c'est plutôt du côté de Jean Marchand. Voilà, enfin tout est là, tout est donné.
Il est pour vous, ce film.
Mais oui, il est pour vous. Non, mais franchement, allez le voir cet été à Changsha, c'est une bonne surprise.
Brooklyn Affair, deuxième film, deuxième réalisation de l'acteur, le grand acteur Edward Norton. Après Au nom d'Anna, New York dans les années 50, Lionel S. Rogue, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Mina. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Mais aussi, alors, c'est très intéressant ce film parce que il s'attaque aux magouilles de la politique, mais aussi des magouilles immobilières qui vont exclure les populations pauvres vers la périphérie. Bref, le New York d'aujourd'hui, un sujet qui tient à cœur à Norton. Son grand-père s'est battu pour la construction d'HLM à l'époque. Le tout nimbé de la musique des clubs de jazz de Harlem, un peu trop présente par parenthèse, plus pas mal de détours, mais beaucoup de sincérité. Brooklyn Affair est aussi un récit d'apprentissage, celui d'un homme qui découvre le noir et le blanc, le noir, les magouilles, la politique et le blanc, l'amour. Lui qui croyait en être exclu, enfin, reste Norton, acteur, qui joue le syndrome de la Tourette. C'était risqué, de façon très crédible, il le joue drôle, dur et émouvant à la fois. Une performance qui n'est jamais démonstrative. C'est un film très intrigant, très beau, qui s'appelle Brooklyn Affair. Le meilleur reste à venir. Je pense pas qu'on sera, ce sera dans la même tonalité. Du duo de réalisateurs du prénom Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. 34 ans aussi après un autre duo, celui formé par Lucchini et Bruel dans Prof. Suite à un énorme malentendu, une confusion de courrier médical, deux amis d'enfance, Arthur et César, dont chacun est persuadé que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Quiproquo et bon sentiment. Le pire est-il à craindre, Laurent ?
Ben, le meilleur reste à venir. C'est-à-dire que le prochain film, peut-être, mais pas celui-là. C'est gonflé, je trouve, d'appeler son film le meilleur reste à venir. C'est dans le, on a l'impression que la critique est dans le
titre. Et humble, peut-être aussi.
Mais, bon, mais enfin, c'est comme ça. Bon, et en plus, si vous le placez sous le patronage de Prof, les pauvres, ils ont leur content. Vous êtes arrêtés là. Allez, après tout, c'est peut-être pas la peine d'enfoncer le clou, mais c'est vrai. Et si, quand même, mention spéciale pour une second rôle, Pascal Arbillot, qui s'en sort très très bien, je trouve.
Elle est bien, cette actrice.
Et justement, c'est ce que je dis. Absolument, elle est très bien.
Depuis quelques films déjà. Vous attendiez ce film, Laurent, Le Voyage du Prince.
Eh oui.
Jean-François Leguioni, Xavier Picard, un vieux prince échoue sur un rivage inconnu, blessé et perdu. Il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l'existence d'autres peuples. Alors, ça donne quoi ?
Ben, ça donne une fable écolo et anthropomorphiste et morphique, je ne sais pas trop comment dire, qui est bien dans l'air du temps, voilà, qui nous dit des choses très très importantes sur l'ère post-industrielle, la cohabitation de l'écologie et du progrès, etc. Et en même temps, on trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça assez, finalement, assez convenu, assez convenable. Peut-être même un poil complexe pour les plus petits qui iront voir forcément ce film parce qu'ils auront aimé comme moi les autres, les précédents films. film de la Guionie, dont le tableau, vraiment là, moi ouais, j'avais magnifique. Été mais subjugué par le tableau, qui était un film extraordinairement beau et intelligent. On retrouve la beauté du dessin de la Guionie, ça c'est pas douteux. En revanche, voilà, je lui trouve un côté beaucoup plus convenable que précédemment, Le Voyage du Prince.
Très vite avant les cadeaux, ce qui nous reste, chronique d'un cinéma en lutte. Abraham Cohen a filmé le combat des salariés du cinéma Le Méliès contre la mairie de Montreuil. Alors, un document partisan engagé façon cinéma direct.
Militant et politique, absolument. Ouais. Ça nous rappelle les belles années du cinéma militant et politique. Mais c'est un documentaire très très précieux sur la façon dont les gens se battent et parfois doutent et prennent des coups pour garder à la fois leur emploi, mais surtout le cinéma là où il le faut, c'est-à-dire au plus près des gens dans les villes.
Et on rappelle la sortie parce qu'il est sorti cette
semaine. Ça s'appelle Ce qui nous reste.
Ouais, de It Must Be Heaven d'Elia Souleymane. Et maintenant passons aux cadeaux pour nos invités.
Alors les cadeaux, d'abord pour Agnès de Sacy, une petite adaptation littéraire, L'Idiot de Georges Lampin avec un certain Gérard Philippe. C'est le film qu'il a en quelque sorte révélé. C'est le évidemment d'après Dostoïevski. Ouais. C'est chez Dorian. C'est un très beau film avec évidemment un beau livret d'accompagnement et puis un autre film comme ça. Allez pour vous, Agnès de Sacy. C'est la période des fêtes. On le recommande aussi à nos auditeurs évidemment. Un certain Elle et lui, film américain de 1939 de Léo McCarey.
Bah oui,
ah ça y est, là vous craquez, oui. Là vous craquez tous les deux.
Non mais attendez, c'est la,
bien
c'est
entendu,
la base,
bah oui, c'est la matrice, c'est la mère des mères, bien entendu. Et c'est dans une belle collection dédiée au film, vous savez, de cette édition de Cannes qui n'a pas eu lieu en 1939, ah, Association Ciné Croisette, qui a la bonne idée de nous donner à revoir ces films.
Reste 20 secondes pour le grand.
20 secondes, c'est chez Hachette, Tué par la mort, Le Dictionnaire des morts incongrues au cinéma, c'est exactement pour vous, Gilles Marchand, je suis sûr que vous en aurez un jour dans le... C'est chez Hachette, c'est formidable. Et puis Les mains d'un étranger, ça c'est un petit nanar de Newt Arnold chez Artus Film, c'est d'après Les mains, vous savez, d'Orlac, ce roman qui a été multi-adapté au cinéma, ça c'est version série B. Noir et blanc.
Merci à tous les deux, Les Envoûtés et Seules les Bêtes. Voilà, deux grands films. Merci Agnès de Sacy. Merci Gilles Marchand.
Merci
générique
vous. Merci
avec aussi. Vous trois d'ailleurs.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Porto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Agnès de Sacy, j'y étais.
Et moi, Gilles Marchand, j'y étais.
Et moi, Guillaume de Fontenay, j'y étais.
Merci Pierre-Yves de Rolin d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Eh bien, il est 11h sur France Inter.